Bonjour Mathieu, bonjour Camille, meilleurs vœux de bonne année déjà. Et j'appelle suite à l'émission de la grippe aviaire. Je me souviens ce mois de décembre passé, 2021, avoir été derrière un énorme camion dans lequel il y avait des cages avec des bêtes blanches dedans, pleines de plumes. Et il y avait des plumes partout qui venaient sur mon pare-brise. Il y en avait plein qui volaient autour du camion. Et le camion, c'était un camion plein de dindes, toutes écrabouillées les unes contre les autres dans les cages. Ben voilà la diffusion de la grippe aviaire. S'il y avait une dinde avec la grippe aviaire, toutes les plumes qui se baladent partout, eh ben elles ont été se balader dans les élevages qu'il y avait à côté. Les oiseaux ont pu les attraper. Enfin bon, voilà. Ça fait partie des belles choses de notre grande société de consommation. Et merci beaucoup pour vos missions.
Bonjour, je m'appelle Renaud, je suis dans le Béarn, à Angus. C'était pour réagir par rapport à votre émission sur la grippe aviaire, et j'aurais aimé que vous enregistriez un peu plus ce qu'a dit la représentante de la Confédération paysanne sur le fait que la propagation du virus vient de l'activité humaine et pas animale. Donc vous êtes un petit peu qu'un défenseur, je l'espère, de la planète et de l'écologie. Donc là, le problème, c'est l'industrie qui propage la grippe aviaire et non pas les simples petits canards qui font le tour de la planète.
Bonjour la Terre au carré, ici Antonia de la magnifique Dordogne. Je vous appelle parce que, comme beaucoup de personnes, pendant des décennies, j'ai adoré manger, consommer du foie gras sans trop y penser. Ensuite, j'ai appris comment était fabriqué le foie gras. Donc, j'ai décidé de trouver des alternatives que j'ai trouvées facilement, telles que le joie gras, la bonne foie, le wow gras, le faux gras et le veg gras. Et vous pouvez trouver tous ces merveilleuses alternatives dans les magasins bio. Et ainsi, nous protégeons nos pauvres animaux qui sont tant maltraités et aussi notre planète. Donc, faisons tous un effort. C'est délicieux, les alternatives. Essayons et vous verrez, vous vous porterez encore mieux. Au revoir.
Oui, bonjour tout le monde, c'est Claude de Grasse. Alors, en cette belle époque où tout est électrifié, tout est connecté, je vous invite à lire le livre d'un monsieur qui s'appelle Barjavel, qui en 1943 a écrit « Ravage ». Et ça décrit, en 2040, tout est électrique et il y a un buzz. Les avions tombent, les voitures se télescopent, les trains n'en parlons pas, les gens ne savent plus rien faire sinon pas une tablette au bout du doigt. Avant d'électrifier tout et n'importe quoi, il faudrait lire ce livre, c'est pire que Orwell. Allez, bon courage à tous, bonne année.
Merci Claude pour vos conseils de lecture et merci pour tous vos messages. En tout cas, un seul numéro à retenir si vous souhaitez nous appeler, c'est celui du répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45. Il y a 200 ans, naissait à Dole dans le Jura Louis Pasteur, qui deviendra l'une des plus grandes figures internationales de la recherche scientifique et médicale. Pasteur a été un précurseur dans la façon de faire de la recherche, et on parle d'ailleurs toujours aujourd'hui de l'esprit Pasteur. Même si depuis 30 ans, les travaux des historiens ont nuancé le portrait du génie isolé, bien Pasteur semble toujours inspirer les chercheurs. Alors, deux siècles après sa naissance, au-delà du mythe qui entoure son parcours, depuis la pasteurisation jusqu'à la vaccination, qui était vraiment Louis Pasteur, comment peut-on comprendre sa trajectoire à l'heure de nos préoccupations écologiques et environnementales? Eh bien, c'est le sujet de la Terre au carré avec nos invités que je salue, Annick Opinel et Cédric Grimoud. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Annick Opinel, vous êtes historienne des sciences, vous avez travaillé au Centre de Recherche Historique de l'Institut Pasteur et à l'Unité de Pharmaco-Épidémiologie et Maladies Infectieuses jusqu'en 2020. Cédric Grimoud, vous êtes professeur agrégé d'histoire et l'auteur de nombreux travaux dans le domaine de l'histoire de la biologie et de l'évolutionnisme. Et là, vous publiez cette biographie, Pasteur, tout simplement. C'est aux éditions Ellipse. On va donc se retrouver dans un instant pour comprendre ce que signifie cet esprit Pasteur. Vous allez répondre également aux messages, aux questions qui arrivent déjà sur la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec vos notes vocales pour vous entendre directement. 14h30, Camille Passauvert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On part où aujourd'hui?
On part à 7 avec un projet de parking souterrain qui fait pas mal de remous.
Voilà pour le sommaire de l'émission. Valérie Ayestarai est aux commandes. Anna Massardi Verdier et Sophie Vaux ont préparé le dossier avec Renan Mahé à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Louis Pasteur, né en 1822 et mort en 1895, est l'un des plus grands scientifiques de l'histoire de France. Il était chimiste et physicien, mais c'est dans le domaine de la médecine qu'il a fait ses plus grandes découvertes. Ses travaux scientifiques l'amènent à s'intéresser à la fermentation, qui sera à l'origine de sa plus célèbre découverte, le vaccin. C'est lui qui conseille de se laver les mains régulièrement pour empêcher les infections microbiennes. Les travaux de Pasteur ont ainsi ouvert la voie aux vaccins, qui ont sauvé des millions de vies dans le monde.
Voilà, extrait du programme Un jour. Une question sur la chaîne YouTube Kids. Cédric Grimoux, il paraît même que Pasteur avait la phobie de la poignée de main. C'est vrai, ça?
Oui, c'est qu'attestent les sources, ouais. Effectivement.
Déjà, les gestes barrières, finalement, ça lui donnait, paraît-il, un air hautain.
Voilà. Ouais. Les gens, évidemment, n'étaient pas du tout habitués à ce manque de contact. Et on raconte que dans son laboratoire, Pasteur faisait laver le savon avant qu'on puisse se laver les mains.
Ça complique les choses.
Deux étapes.
Avec quoi on lave du savon
Avec ses mains, sous l'eau bien sûr, mais on frotte déjà le savon une première fois pour le savon, et ensuite, du coup, on peut se laver les mains.
Ouais, on ne va pas retenir l'idée, en tout cas, même s'il faut se laver les mains. Ça, par contre, il faut toujours le faire, surtout en ce moment. Est-ce que c'est la vue des microbes dans les microscopes qui l'ont rendu comme ça quasiment phobique?
Alors, il avait manifestement déjà une excellente formation liée à son père, qui était adepte de l'hygiénisme de manière très précoce, à une époque où on ne parlait pas des microbes, véritablement, mais il en était convaincu, voilà, de la possibilité de transmettre par contagion les maladies. Ouais. Et par conséquent, son fils a hérité justement ce souci extrêmement rigoureux et scrupuleux de l'examen, par exemple des poussières à table. Donc Madame Pasteur lui faisait toujours les gros yeux parce que, quelle que soit la propreté de la vaisselle, il tenait toujours à épousseter l'assiette avec sa serviette avant d'être servi. Ou il décortiquait le pain. Hein, le pain de l'époque était fait avec des farines relativement brutes, hein, ouais, qui étaient moins bien raffinées que les nôtres. Et les témoins racontent que, quel que soit le repas, il arrivait toujours à trouver des corps étrangers, pattes d'insectes, petits grains de sable.
Ça va être sympa d'être invité chez eux à manger. Hein. Alors dites-moi, Annie Copinal, est-ce que justement ce mot de rigueur, finalement, il ne traduit pas aussi parfaitement la personnalité de Louis Pasteur et sa méthode aussi, la méthode scientifique pasteurienne, c'est un peu ça quand même. Hein.
Ah oui, c'est ce qui caractérise Pasteur, c'est effectivement la rigueur de la méthode. Alors rigueur dont il n'hésite pas non plus à clamer la proximité avec celle de Claude Bernard. Cette espèce de méthode expérimentale absolument rigoureuse, il remercie Claude Bernard qui était l'expérimentateur absolument réputé de l'époque, professeur comme lui à la Sorbonne. Donc vraiment cette rigueur, c'est ce qui détermine de toute façon toute recherche expérimentale, ouais, même actuelle.
Cédric Grimoux, on n'a jamais autant parlé de vaccination hein, que depuis évidemment ces derniers mois dans le monde. Est-ce que justement votre biographie a pour idée un peu de s'inscrire dans ces débats qui agitent la société aujourd'hui?
Alors, ce n'était pas le projet, mais de fait, l'actualité nous rattrape quelque peu. Et il est vrai que j'ai été particulièrement surpris de l'actualité des reproches qui ont été faits à Pasteur de son vivant. Et des difficultés qu'il a eues, bien qu'étant en fin de carrière, à faire passer justement l'idée de la vaccination.
Déjà à l'époque
hein. Oui, parce que...
Quels reproches?
Des reproches notamment sur la valeur et la fiabilité des statistiques réalisées. C'est-à-dire que, oui, ses contradicteurs lui reprochaient de prendre en compte trop de cas, par exemple, y compris des gens ou des animaux qui n'auraient pas été malades, véritablement. Ou, à l'inverse, qui comptaient trop de personnes et de spécimens guéris par rapport à ce à quoi on devait s'attendre. Surtout pour la rage. En particulier, la rage, c'était une maladie qui était quand même relativement rare. Bon, très spectaculaire, donc très médiatique, qui faisait une peur vraiment bleu à l'époque, mais voilà, c'était quand même quelques cas, une dizaine de morts par an à Paris, vous voyez, dans la fin du 19e siècle. Et finalement, donc les gens, même à l'Académie de médecine, reprochaient à Pasteur de truquer les chiffres. Et il a dû faire un cours quasiment de statistiques hein, devant les professeurs et devant la presse, pour convaincre. Il prend plusieurs articles scientifiques consacrés à la question. Ce sont des tonnes de données hein, et qu'il présente sous différents angles pour absolument convaincre justement son auditoire.
Mais est-ce que déjà à l'époque, la vaccination a divisé la société par rapport justement à cette méthode tout à fait nouvelle et le fait d'inoculer un microbe quand même, celui de la maladie en particulier, Annie Coppinel ?
Elle l'a divisé, mais de façon, disons, moins tonitruante, parce qu'à l'époque, il n'y a déjà pas les réseaux sociaux qui sont vraiment une caisse de résonance. On le voit maintenant. Il y avait une poignée d'antivax, ça c'est sûr, ça c'est clair.
Déjà.
Il y avait des gens qui effectivement pointaient les biais qu'aurait pu mettre Pasteur dans ses découvertes, ce qui évidemment lui-même s'empêchait de les désamorcer tout de suite. Parce que Pasteur, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à aller vraiment à la mine. Hein, c'est-à-dire, il allait à l'académie, il veut publier les résultats, il le disait lui-même. Mais effectivement, je ne pense pas qu'il y avait une fracture aussi énorme que maintenant. Je ne pense pas que c'était... Bien que la presse, et ça Cédric l'a indiqué dans son livre, la presse, les médias déjà s'étaient fait l'écho à la fois des problèmes de vaccination, des problèmes de résistance et des problèmes de méfiance.
Alors il y a déjà des messages et des réactions parce que Pasteur suscite beaucoup de réactions dans un sens comme dans l'autre et on peut lire quelques messages.
Oui, Aude, par exemple, qui vient de nous écrire que Pasteur est un reflet de l'évolution de la médecine mais qu'il a dû aussi donc se battre contre les préjugés et les ignorants. Ça se répète encore aujourd'hui, dit Aude. Est-ce qu'il y avait aussi cette peur, Cédric Grimaud, de l'inconnu, finalement?
Ah bah toujours. D'ailleurs, ça fait partie de la recherche scientifique en général, que celui qui trouve doit le clamer haut et fort. Quel que soit le contexte, que ce soit de la physique très théorique ou justement des domaines d'application immédiate comme en médecine, il faut vaincre les pesanteurs, les peurs, les accords établis déjà dans la société. Et pour ça, effectivement, il faut énormément d'énergie. Pasteur n'en manquait pas.
Il le faisait tout seul parce qu'aujourd'hui, on voit, si on fait le parallèle encore avec la situation d'aujourd'hui, c'est tout un gouvernement, c'est tout un monde de scientifiques qui font un petit peu cette énergie. Pasteur, il était seul ou il était quand même accompagné?
Non, il a eu l'intelligence et un peu la chance aussi de savoir très bien s'entourer et de recruter des alliés efficaces. Très tôt, il a cherché des mentors qui étaient très bien introduits, comme Jean-Baptiste Dumas, qui était un ancien ministre de l'Agriculture et très proche de l'empereur Napoléon III, qui lui a permis ensuite, comme d'ailleurs Claude Bernard, de fréquenter la cour impériale. Ça, c'était tout à fait décisif, évidemment, d'avoir les bons appuis politiques au bon moment. Il a recruté également des hygiénistes, parmi les médecins, parmi les chirurgiens, parmi les vétérinaires, qui étaient en pointe dans ces domaines-là, et donc qu'il pouvait trouver une complémentarité. Donc ça, il a recruté donc des alliés. Il a choisi aussi, et là-dessus il a été précurseur, d'excellents élèves, des auxiliaires de laboratoire, qui sont ensuite devenus aussi certains brillants professeurs, comme Émile Roux, par exemple, qui est peut-être le plus célèbre d'entre eux. Il les a formés, justement, à sa discipline rigoureuse et qui multiplie les expériences sur chaque domaine, pour qu'ils puissent aussi aller porter la bonne parole sur le terrain, puisque Pasteur n'hésitait pas à aller à la campagne, les pieds dans le fumier, pour expérimenter sur les animaux, pour se rendre dans les magnaneries des Cévennes qui étaient ravagées par la pébrine, la maladie du ver à soie. Et il reprenait le train pour aller à l'Académie de médecine ou à l'Académie des sciences à Paris.
Sauf qu'Annie Coppinel, finalement, ce qui est resté pendant assez longtemps et ce qui a été critiqué d'ailleurs par les historiens ces dernières décennies, justement, c'est cette image du mythe de l'homme solitaire, ce savant seul, alors que ce n'est pas du tout le cas en réalité.
Mais non, ce que d'ailleurs vient de dire Cédric, même si l'organisation était assez pyramidale et assez monocentrique, il y a quand même quelqu'un, Pasteur, qui s'entoure de ceux qu'il ne connaît pas. Pas la médecine, un médecin, donc Émile Roux. Il s'entoure de chercheurs qui, eux-mêmes, ne sont pas que dans l'admiration béate, ont leur propre recherche. Émile Roux, qui d'ailleurs va continuer en 1994 avec la diphtérie, fondant lui-même l'Institut de sérothérapie anti-diphtérie, fondant l'hôpital de l'Institut Pasteur. Donc il y a quand même une espèce de on va dire, une équipe proactive autour.
En tout cas, l'Institut Pasteur qui est rue Émile Roux, justement, aujourd'hui à Paris.
Oui, rue de Docteur Roux avant.
Mais sauf qu'on a quasiment tous oublié le nom d'Émile Roux, personne ne le connaît.
C'est fort dommage, c'est fort dommage, parce que vraiment c'est une personnalité.
On va écouter un de nos auditeurs qui n'est pas du tout dans l'admiration de Louis Pasteur, vous allez l'entendre.
Bonjour Mathieu Vidard et bonjour toute l'équipe. Enfin, après toutes les publications, après tout le recul qu'on a, tout ce qu'on sait de la vie de cet homme, Louis Pasteur, l'imposteur, est-ce que enfin vous allez mettre les pieds dans le plat en disant que tout ça et toutes ces expériences ne sont que lamentables tromperies.
Alors, il va loin notre auditeur Jean-Marc. Qu'est-ce que vous lui répondez, Cédric Grimou? Parce que l'imposteur, même les Américains, il n'y a pas si longtemps que ça, ont essayé de faire croire que Pasteur avait été vraiment cet imposteur. Hein.
Oui, imposteur pourquoi? Parce qu'il a découvert les molécules chirales, la symétrie moléculaire. C'est quand même une découverte majeure dans son domaine de naissance qui était la chimie. C'était un chimiste au départ.
Il n'était pas médecin.
Pas du tout un médecin. Hein, ouais. Voilà. Ensuite, il a quand même remporté la célèbre controverse sur la génération spontanée en démontrant qu'effectivement, il n'y avait pas d'apparition de la vie de nouveau, hein, mais que ça se faisait à partir des œufs et des spores, des organismes qui étaient parfois capables de résister aux hautes températures, puisque c'est lui quand même à qui l'on doit le procédé de pasteurisation. Et donc d'avoir consolidé les techniques que l'on a jusqu'à aujourd'hui pour conserver les aliments, hein, comme le lait, par
exemple. Mais comment vous interprétez-vous ces critiques très dures qui existent aussi autour de la figure de Louis Pasteur? Pour certains Français, effectivement, c'est pas du tout ce mythe à respecter dans lequel on est totalement admiratif.
Ouais, je crois qu'il faut garder la juste mesure entre les deux. C'est-à-dire que l'admiration béate, est-ce que c'est vraiment constructif? Bon. Pasteur lui-même a bâti sa légende parce qu'il en avait besoin pour obtenir des financements. Il ne faut pas croire que les financements, ça tombe comme ça du ciel. Hein. C'était extrêmement coûteux, ces recherches, en espace, en produits chimiques, hein, en personnel. Quand il a fallu vacciner des chiens hein, par dizaines contre la rage, bon, tout ça, ça demandait des installations.
Ouais, hein, qui étaient, il a pris des risques énormes, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure.
Oui, il n'a pas hésité à mouiller la chemise et personnellement hein, à s'impliquer durablement. Après, je crois que comme Molière disait, les envieux mourront mais n'ont jamais l'envie. Ça ne plaît pas les success stories à la française. Hein. On a un problème avec ça culturellement et c'est bien dommage.
Louis Pasteur, on en parle, c'est le bicentenaire de sa naissance cette année.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos. Chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien. Au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos. C'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt, mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie, il n'y a rien de plus vital. Que le vide de tous les jours.
La vie de tous les jours, c'était Jacques sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Allons messieurs, un peu de calme, je vous en prie. Les découvertes des microbes n'ont pas grand intérêt pour la médecine. Elles ne valent ni le temps qu'on y passe, ni le bruit qu'on en fait. Monsieur Pasteur est sans doute un éminent chimiste qui, inspiré par le désir d'être utile, veut réformer une médecine à laquelle il est absolument étranger. Mais nous, les médecins, savons très bien, et depuis fort longtemps, que les maladies viennent de l'intérieur du corps et qu'elles ne sont pas apportées par d'étranges micro-organismes qui flotteraient dans l'air par la grâce du Saint-Esprit.
Ne pas reconnaître l'importance des micro-organismes revient à continuer à tuer les malades, non plus par ignorance, mais par bêtise.
Voilà, extrait du docu-fiction Pasteur avec André Marcon dans le rôle justement de Louis Pasteur pour évoquer bien la figure de ce scientifique à l'occasion du bicentenaire de sa naissance avec Cédric Grimaud et Annick Opinel qui sont historiens des sciences. Cédric Grimaud, c'est la naissance de la microbiologie finalement, Louis Pasteur aussi. Hein,
ah bah, complètement.
Et de la compréhension des microbes.
Oui, c'est ça. Alors, il n'est pas à l'origine de l'idée parce qu'elle est aussi ancienne que la microscopie. Il avait déjà observé justement ces micro-organismes, mais c'est lui qui administre les preuves décisives de leur potentielle nocivité, puisqu'il a bien observé d'ailleurs que tous les micro-organismes n'étaient pas pathogènes, hein, loin de là. Mais en revanche, il est le premier à écrire noir sur blanc les preuves. Voilà, ça c'est très important. Je crois que on a trop longtemps en histoire des sciences valorisé les découvreurs, ceux qui trouvent, les premiers qui produisent une idée nouvelle, ce qui est très intéressant en soi, mais on n'a pas assez insisté, à mon avis, sur ceux qui prouvent, parce que c'est effectivement ça le grand apport de Pasteur.
C'est ça, c'est la méthode scientifique, justement.
Grâce à la méthode expérimentale.
Annick Opinel, on garde beaucoup de Pasteur l'image justement de l'homme qui a mené la guerre aux microbes, l'esprit pasteurien, pour beaucoup de gens, c'est un peu ça quand même. Est-ce qu'en ce sens, on n'a pas un peu mal interprété la sensibilité de Pasteur au vivant, au fond? Parce que c'est ça, les microbes aussi, c'est le monde vivant.
Oui, non, on l'a pas mal interprété. Et puis, justement, parlons d'esprit pasteurien, je rebondis aussi sur ce que disait Cédric, parce que c'est intéressant. Il faut vraiment savoir ce que c'est que l'épistémologie d'une découverte. C'est vraiment emboîter son intuition, emboîter son expérimentation sur ce qui est connu, sur ce qui précède, même si c'est balbutiant, même si c'est quelque chose de complètement avancé. C'est ça aussi le génie, c'est avancer sur ce qui précède. Et ça, Pasteur l'a fait, et on le fait toujours. C'est effectivement...
Mais lui, c'était un peu un aventurier, quand même, parce qu'il s'est beaucoup baladé entre les différentes scientifiques, les différentes disciplines scientifiques, pardon.
On dirait, oui. Mais je pense que c'est assez cohérent, dans la mesure où, effectivement, une recherche, le mène à une autre. Du vivant, de l'animal, il passe à l'humain. De l'humain, il passe à la vaccination.
Donc, il y a un fil.
Il y a un fil.
Un peu un fil invisible.
Complètement ouais. Cohérent.
Alors, justement, sur l'application France Inter, Lydia nous demande comment Pasteur en est venu au vaccin. Qui peut répondre? Cédric Grimaud.
Ah oui, alors il y a toute une série d'étapes hein, dans ces travaux de la chimie. On passe à la fermentation, hein, qui est à l'origine de ces cristaux asymétriques, qui passe à l'origine donc du coup de ces micro-organismes et leur prolifération dans l'organisme. Puis la lutte véritablement contre ces maladies.
On peut dire qu'il arrive au vaccin grâce aux poules, finalement, si on voulait vraiment résumer très très vite ça.
Aussi, le choléra des poules.
Il va falloir expliquer.
Ouais, alors pourquoi justement?
Le choléra des poules était une maladie.
Et c'est là-dessus, en fait, qu'il a découvert la vaccination.
Entre autres, parce qu'il avait plusieurs modèles, comme on dit aujourd'hui, hein, en biologie et en médecine. Il a travaillé en parallèle, effectivement, sur plusieurs affections qui étaient importantes. Il se rend à l'hôpital, hein, parce que c'est la grande époque aussi des fièvres puerpérales. Les femmes meurent après leur accouchement de l'infection au streptocoque, qu'on ne connaît pas évidemment encore à cette époque.
Mais donc il y a ces poules qui ont le choléra.
Et puis il y a les poules qui ont le choléra des poules, attention, ouais, c'est pas ça. Le choléra humain.
Et donc il a l'idée d'inoculer en fait le microbe du choléra des poules aux poules.
C'est assez... Alors il y a toute une forme de légende autour de ça, parce que il travaille sur le matériel en fait qui communique la maladie, on ne sait pas encore être justement ces micro-organismes pathogènes. Il part en vacances, comme assez souvent pendant l'été, dans son Jura natal. Et puis il écrit justement à ses collaborateurs en disant « Puisque vous êtes revenus, testez donc ce matériel qui est resté sur la paillasse pour voir ce que ça donne. » Alors, on sait depuis que c'est aussi une ligne de recherche qui a été menée déjà sur l'atténuation des pathogènes par l'exposition à l'oxygène, par des temps de latence. Et c'est la découverte très très progressive, hein, très graduelle, parce que c'est ça quand même qu'on ne dit pas très souvent, parce que Pasteur, il est forcément résumé, c'est forcément le génie visionnaire, l'expérimentateur, bon, mais c'est qu'il fonde chacune des étapes de son travail sur des centaines d'expériences qui sont elles-mêmes répétées, hein, des dizaines, des centaines de fois. Donc il y a une puissance de travail derrière qui est colossale, et du coup il y avait une ligne de recherche de ses collaborateurs qui travaillaient déjà sur l'atténuation des...
Et donc après les poules, il a l'idée de passer à l'homme, et là il est très critiqué parce qu'il prend des risques énormes là-dessus.
Ah ben oui. Hein,
il y a eu les chiens et donc le passage à l'humain, et donc le premier qui bénéficie, heureusement ça s'est bien passé, de ce vaccin contre la rage, eh bien c'est le petit Joseph Meister. On va entendre sa voix, c'est un document qu'on réécoute toujours avec pas mal d'émotions. Il date de 1939 et lui, devenu Joseph Meister adulte, raconte ce qui s'est passé.
C'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur.
Car, bien entendu, l'Institut Pasteur n'existait pas à ce moment-là. Mais dites-moi, comment le grand savant vous accueilla-t-il ?
Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Vous avez donc, en quelque sorte, servi de cobaye, le premier cobaye humain, à Pasteur. Et à vous voir, aujourd'hui, encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Voilà, 1939, alors qu'il était guéri en 1885, donc la voix de Joseph Meister. Annie Copinel, il a pris des risques considérables quand même, oui, Pasteur. Hein.
Alors, il a pris des risques...
Est-ce qu'on prendrait les mêmes risques aujourd'hui ?
Mais éthiquement, on peut pas, déjà.
C'est pas possible, hein, de travailler sur l'homme comme ça,
c'est
à l'aveugle.
C'est juste impossible, sans essais cliniques, sans tous les...
Tout le protocole à respecter,
voilà.
Tout simplement. Ouais.
Alors, c'est énorme, c'est effectivement... ça fait froid dans le dos, mais bon, placé devant le, je sais pas, l'humain, là, on était carrément dans l'humain, on était dans l'affect, il l'a fait, il l'a répété avec Jupic de façon moins, on va dire, moins dramatique, ça a marché. Mais on est...
Il a eu de la chance, et ça a été un triomphe. Hein. Oui, il a annoncé 2 mois, je crois, après véritablement la guérison de Joseph Meister.
Parce qu'il n'était pas tout à fait sûr de son coup.
Donc il attendait quand même. Et puis il y a eu des fuites de la presse aussi à l'époque. Hein. Il y avait déjà des journalistes qui traquaient finalement les grandes découvertes. Camille, un petit message sur le savon avant de passer
à votre
chronique.
David nous écrit: Pasteur avait raison de se méfier du savon, à moins de sortir de son emballage. Une savonnette qui traîne dans une coupelle ou un porte-savon s'est enduit de germes. C'est l'action du savon avec l'eau qui dégraisse et entraîne l'élimination des bactéries et germes. Ça n'est pas une quelconque propriété magique, voilà. Donc rincer le savon.
Il faut rincer le savon, alors vraiment. Qu'on dit l'Institut Pasteur.
Ah oui, le pasteurien. Vous savez, l'hôpital d'Émile Roux a été bâti, et ça, c'est une architecture qui est formidable, bâti justement sur ce circuit du germe, du microbe et de tout le protocole à respecter sur l'aseptie, asepsie.
Ouais. Allez, on revient sur l'esprit pasteurien à l'heure, évidemment, du Covid-19 et les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, Camille, on passe au vert, on part à 7.
Et dans la liste des combats que je vous rapporte contre certains projets un petit peu partout en France, voici le premier de l'année.
Pas de Paris, on ne peut plus voiture en centre-ville, respirez tranquille.
Pas de parking, on ne veut plus de voiture en centre-ville, respirez tranquille sur un air de Brassens. Puisque
oui, on est à 7, hein.
Nous sommes, oui, dans la ville du chanteur à 7, où un projet de parking souterrain de 300 places fait donc polémique. Et c'est le collectif Ban Public, qui le dénonce, créé par des habitants dont Sandra Bindel.
L'ensemble de l'association demande que le projet soit tout simplement abandonné parce qu'il n'est pas pertinent d'un point de vue social, d'un point de vue écologique. Il est extrêmement néfaste et il n'est tout simplement pas nécessaire.
Pas besoin de parking supplémentaire, disent-ils, et encore moins sous la place Aristide Briand, dite place du kiosque, ultra fréquentée avec son kiosque à musique, donc de 1892, ses marchés, ses brocantes, activités sportives et arbres, que regardait un autre sétois, Christophe Piala, le président du collectif, quand je l'ai interviewé hier.
Je vous parle même depuis une fenêtre qui donne dessus, c'est vraiment superbe, avec un soleil d'hiver sur cette magnifique place. Là, on a cet alignement d'arbres, on a de l'ombre au milieu de la ville.
Voilà, plus de 70 tilleuls argentés, dont la majorité doit être transférée sur un autre site quand les travaux commenceront.
Il y aura une cinquantaine d'arbres qui seront arrachés. Ces arbres à haute tige qui demandent une implantation des racines un peu plus volumineuses et qui ne pourraient pas se développer à nouveau. Leur croissance serait interrompue et ces arbres-là n'auraient plus leur place, ils périraient.
Les arracher, c'est les condamner d'après le collectif, car ils ne seront pas replantés dans les bonnes conditions. Premier problème. Et puis il y a aussi ce qui se passe en dessous de la place.
On a un système d'infiltration des eaux entre le mont Saint-Clair, qui est le mont qui est juste au-dessus de la ville, et la lagune qui est en bas. Et ce projet va venir le perturber avec des conséquences négatives sur tout l'écosystème qu'on ne peut pas encore imaginer.
Et un autre membre du collectif habitant sur la place, François Piètre, continue les explications.
Sous cette place, c'est des rochers, avec entre les rochers de la terre et de l'eau. L'étude géotechnique montre que quand ils vont creuser pour faire le coffrage du parking, ils seront obligés de pomper l'eau et la quantité d'eau qu'ils doivent pomper sera équivalent à une piscine olympique par heure, jour et nuit. C'est donc énorme.
Alors, une pétition a recueilli 5200 signatures à l'heure où je vous parle, mais le maire de Sète, depuis plus de 20 ans, François Comen, qui préfère se dire inclassable que de droite, se défend.
L'eau qui coule du Mont Saint-Clair, il faudra qu'ils me disent d'où elle vient, quelle est la source, parce que moi je n'en connais pas beaucoup, et quand même je suis sétois d'origine, pas comme beaucoup de signataires de la pétition qui ne connaissent pas l'évolution de la ville, mais au contraire, c'est pas à moi qu'on va m'apprendre ce que c'est que l'écologie, ce que c'est que la végétalisation de nos espaces, ayant planté plus de 10 000 arbres depuis mon élection en 2001, ayant créé beaucoup de placettes.
D'ailleurs, ce projet de parking souterrain était dans son programme quand il a été réélu en 2020. Pas question donc d'y renoncer, d'autant que monsieur le maire le considère comme vertueux.
La place sera reconstituée à l'identique, avec davantage d'arbres que ce qu'il y a actuellement, puisqu'actuellement il reste plus que 79 arbres, alors qu'il y en aura 92 à la fin de l'aménagement, avec le kiosque qui sera reconstruit sur le toit du parking, bien sûr.
Mais pas de quoi convaincre les opposants qui n'en démordent pas. Ce parking n'est pas essentiel et encore moins hors été.
Forcément, cette en été accueille beaucoup plus de monde, c'est certain. Mais à ce moment-là, c'est une forme de stationnement prévue pour du tourisme qu'on peut mettre à l'extérieur de la ville. Les Sétois qui sont ici installés en résidence à l'année, ne vivent pas sur ce rythme-là. Et je vous dis, les deux parkings centraux du cœur de ville ne sont pas remplis.
Sans compter le contexte plus global, avec le besoin de réduction d'artificialisation des sols.
C'est vraiment une aberration, un écocide, en ce sens que on détruit au lieu de sauvegarder.
Mais là encore, François Comen, le maire, répond un petit peu aidé, si vous tendez l'oreille, par son conseiller communication qui, pendant qu'il l'enregistrait avec moi au bout du fil, lui soufflait ou écrivait en vitesse 2-3 éléments, écoutez bien.
Lignes de bus, avant il y en avait 6, maintenant il y en a plus de 20 lignes de bus. Les pistes cyclables, on est à plus de 190 kilomètres de pistes cyclables. On a diminué par 4 depuis 2009 l'artificialisation des terrains.
Donc, mais là, vous voyez, la construction d'un parking, c'est une artificialisation.
Mais non, c'est puisqu'il y aura exactement les mêmes arbres. C'est en dessous, c'est en sous-sol.
Vous allez mettre du béton dans le sous-sol, donc ça correspond à l'artificialisation des sols.
Moi je veux bien, mais enfin, on n'a peut-être pas la même conception des choses.
C'est la justice qui tranchera, puisqu'un référé a été déposé au tribunal juste avant Noël, suspendant temporairement les travaux qui devaient commencer cette semaine.
Et c'était Camille Passauvert à 7 aujourd'hui, à réécouter évidemment sur la page de la Terre au Carré. Allez, Louis Pasteur, le scientifique, mais aussi le businessman, on en parle dans un instant.
Smiles bend over.
You and me, c'était Al Jay.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Pasteur est élu à l'Académie des sciences en 1862. Peu après, l'empereur Napoléon III l'appelle à la rescousse, car une maladie ravage les élevages de vers à soie. Or, dans le sud de la France, on fabrique beaucoup de soie, un tissu précieux dont le fil est produit par un petit ver en grand danger. Pasteur se rend donc à Alès, dans les Cévennes, et trouve la solution. Les vers à soie sont sauvés. À partir de cette date, il se passionne pour les maladies des animaux. Dans les années 1880, il combat le choléra des poules et la maladie du charbon chez le mouton. Deux maladies qu'on n'arrive pas à soigner et qui détruisent les élevages.
Voilà, et c'est cette histoire dont vous parlez tout à l'heure qui débouchera sur la vaccination. Extrait de TV5 Monde, quelle histoire autour de Pasteur. Annick Opinel, puisque vous êtes notre invitée avec Cédric Grimaud, historien des sciences, ce qui est étonnant finalement dans le parcours aussi de Louis Pasteur, ce sont les considérations économiques, parce qu'il s'intéresse à des problèmes scientifiques, mais qui ont aussi des applications industrielles. Et finalement, le ver à soie en fait partie aussi de ce processus, hein.
Oui, tout à fait. C'est ce qui est important. Je crois qu'il a acquis finalement cette renommée par là, par l'application, par sauver l'économie de la France. Parce que là, on se situait sur un terrain économique, la bière, le vin, la soie. Mais on se situait aussi sur un terrain politique. Mmh. On était quand même encore sur l'après chute de Sedan. On était quand même sur un problème de concurrence extrême avec l'Allemagne, à tout point de vue. Donc il fallait relever le gant. Il fallait absolument relever le gant. Que l'économie soit florissante, qu'on montre effectivement aux Allemands aussi que la France
avait aussi des innovations.
Voilà. Et est-ce qu'il y aurait pu y avoir, de la part des, alors je mets des guillemets, des industriels de l'époque, je vais quand même le dire, est-ce qu'il y aurait pu avoir une forme de récupération? Est-ce qu'il a eu des demandes un petit peu comme ça, par exemple, d'octroyer le brevet à telle ou telle entreprise ou pas?
Ah ben, le brevet, non, parce que c'était pour l'Institut Pasteur, le brevet c'était pour lui, mais...
En gros, est-ce qu'il aurait pu être corrompu, quoi?
Non.
Non, je crois pas. Ça se joue pas dans ces termes-là. Il est sollicité par un certain nombre d'industriels qui ont des problèmes avec le tartre, avec les vinaigriers qui ont des soucis parce que leur ferment meurt, voilà, disparaissent, ils ne comprennent pas pourquoi. Et Pasteur est ensuite sollicité directement par le gouvernement pour régler le problème du verre à soie.
Donc, il crée aussi sa société de bière quand même en 1870. Donc c'est il vend ses propres licences quand même.
Il y avait de la bière Pasteur.
Oui. Ah ouais. Et oui, qu'il fabrique d'ailleurs à l'école normale supérieure.
Donc c'est un vrai businessman en ça quand même.
Oui, mais pas pour lui.
Il y a les deux facettes.
Voilà, c'est pour lui, il s'en récupère un peu parce qu'effectivement, il est pas tout à fait.
Oui. Mais il joue sur les deux registres, à la fois la science fondamentale et la science très appliquée.
Ah, mais ça, c'est
où il
ça,
a
c'est
des
clair.
Intérêts financiers.
Ça, c'est ce qui distingue Pasteur, c'est que ça commence par l'application et ça se termine vraiment par le fondamental. Ouais. Bizarrement, c'est ainsi que ça marche.
Et du coup, il est implanté absolument partout, à la fois dans les institutions, auprès du milieu politique et dans l'économie du pays, en fait, c'est ça.
Oui, et ça renforce considérablement, évidemment, la crédibilité de ses travaux, puisqu'il peut s'appuyer sur des rapports qui viennent des Alpes du Sud, qui viennent de Sologne, qui viennent même de l'étranger.
Donc il est très renseigné, et Bruno Latour parle d'un entrepreneur de science, qui donc toute sa vie a noué des alliances avec les milieux industriels et financiers.
Alors, on a pas mal de sceptiques qui nous écoutent, visiblement, ça va peut-être pas trop vous plaire, Cédric Grimoux. Je commence par Stévenin, par exemple, qui nous écrit: est-il vrai que Pasteur a tué un ou plusieurs cobayes pendant ses recherches sur les vaccins? Est-ce que c'est une légende?
Alors, non, il est attesté, effectivement, le cas de Jules Rouillet, un jeune homme un enfant, qui est mort dans des circonstances compliquées, et il semble bien que ce soit le vaccin qui l'ait tué, mais il a aussi reçu un coup de pied dans le dos alors qu'il était affecté. Bon, bref, c'est très compliqué. Il y a eu une entente entre justement le patron de l'hôpital et les pasteuriens pour dire évidemment si on reconnaît la culpabilité du vaccin encore expérimental dans ses premiers temps.
C'est la cata.
Alors c'est la mort. Hein. Personne ne voudra se faire vacciner. On tue cette branche de la recherche. Et donc ils ont tué. Aujourd'hui c'est su, c'est connu, on le sait grâce aux sources. Et c'est quelque chose de très intéressant aussi, c'est que la légende de Pasteur, construite par lui, par son équipe, et aussi par l'État français, qui en a fait une légende dans tous les manuels d'histoire de la Troisième République, etc. Mais sa trajectoire n'a jamais été lisse. Il y a toujours eu une part d'échecs, d'erreurs et même des accidents, dont Pasteur a d'ailleurs failli être victime à certains moments. Pasteur est prêt à recevoir le vaccin lui-même pour démontrer son innocuité générale. Alors finalement, comme il était déjà âgé, il a fait plusieurs accidents vasculaires cérébraux dès les années 1860, c'est-à-dire plus de 20 ans avant qu'il ne commence les travaux sur la vaccination. Il se savait en sursis, se savait condamné en fait à brève échéance, puisque les autres membres de sa famille sont morts dans les mêmes conditions. Et du coup, c'est son équipe qui a décidé de se faire vacciner intégralement.
Alors Marie-Claude nous écrit aussi: Pasteur n'était pas médecin, si c'était un contemporain, dit-elle, il serait en prison pour
impossible.
Exercice illégal de la médecine. Cette chose n'est jamais dite, morale.
Oh, si.
On a tout à gagner, je finis son message, on a tout à gagner à écouter les chercheurs non médecins. Ils peuvent faire des découvertes fondatrices, ce qui est loin d'être toujours le cas de nos jours, nous dit-elle. Et je vous pose cette question aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure à Nico Pinel. Lionel réagit en disant: pardon, mais le vaccin contre la Covid est sorti en dehors de tout protocole habituel.
Comment ça tout
Tout à l'heure, on disait qu'il y avait on n'aurait pas pu tester comme ça le vaccin comme il l'a fait sur un enfant en l'occurrence.
Mais tous les protocoles ont été respectés pour le vaccin contre le Covid. En aucun cas, on a passé outre. Rien.
Ça veut dire qu'on n'a pas mis d'humain en danger, concrètement?
Non, il y a eu toutes les phases d'essai cliniques absolument respectées, et c'est absolument impossible de
donc
faire autrement.
Donc il y a eu toutes les étapes qui ont précédé
absolument.
D'abord le passage à l'humain sur l'animal, avec des protocoles très précis, et les différentes étapes, avant de passer justement à l'humain.
L'idée...
Ce qui n'a pas été le cas du temps de Pasteur, parce qu'il a été beaucoup plus rapide.
Mais parce qu'il n'y avait pas de protocole mis au point déjà. Et puis, je vais vous dire une chose, en ce qui concerne le Covid, ce qui effectivement mobilise un peu les interrogations sur la rapidité de la mise au point du vaccin, c'est parce qu'il y a eu un financement absolument énorme. Donc, il y a eu d'autres techniques. L'ARN messager a été un accélérateur, effectivement, qui a squeezé certaines temps dédiés à...
Certaines étapes, oui.
Voilà, mais en aucun cas on est passé au-delà d'un quelconque protocole. Ouais.
En tout cas, la vaccination à l'époque de Pasteur a permis de financer l'Institut Pasteur. C'est vraiment un institut qui au départ était dédié entièrement à la recherche sur la vaccination. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, autour du Covid-19, aucun vaccin français issu justement de l'Institut Pasteur n'a encore été trouvé. Et ça, on sent cette crispation aussi dans les messages de la part des Français. Il y a comme une espèce de déception d'ailleurs, parce que la France n'a pas du tout sorti de vaccin.
C'est la fourmale, comme on dit.
Et c'est un problème pour l'image de Pasteur, ça ou pas?
C'est pas un problème pour les malades de Pasteur, mais c'est sûr
de l'Institut Pasteur.
De l'Institut Pasteur, mais c'est clair qu'étant fleuron de la recherche fondamentale française, de stopper la recherche sur le vaccin et d'abandonner l'idée du vaccin français était une décision difficile à prendre, mais c'était une décision honnête. L'expérimentation et la recherche fondamentale se doit avant tout d'être honnête, et cette honnêteté intellectuelle, on en a été les premiers à en souffrir, mais il fallait vraiment abandonner cette idée, ouais, pour des tas de raisons.
Cédric Grimaud, la France, seul pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas produire de vaccin contre le Covid-19, vous le rappelez hein, dans votre livre. Alors, il est où le pays de Pasteur, là?
Oui, j'en veux beaucoup à ce pays qui laisse tomber sa politique scientifique, qui était quand même un pays précurseur depuis au moins Napoléon Ier, peut-être même Louis XIV, quand ils fondent l'Académie des sciences, on remonte très très loin. C'est un pays qui a toujours consacré beaucoup d'intérêt à la recherche scientifique. Or, les objectifs depuis l'an 2000 ne sont pas tenus. On n'est pas à 3% du PIB pour la recherche scientifique. On en a impérativement besoin, parce que ça crée des emplois, parce que ça lance la dynamique technologique qui nous permettrait de rivaliser avec les pays qui sont en pointe aujourd'hui dans le monde, et puis aussi avec ceux qui ont un coût de main-d'œuvre très bas. On ne peut pas rivaliser avec eux de ce point de vue-là. Alors il faut rester dans la compétition technologique mondiale, je crois que c'est essentiel.
Donc il y a un problème de financement public de
la recherche. Oui, il y a un problème de financement public en quantité et aussi en qualité, parce que les statuts de nos chercheurs ne cessent d'être attaqués depuis 15 ans. Aujourd'hui, on utilise des vacataires, d'ailleurs, comme à l'hôpital, comme à l'enseignement. Ce sont les trois piliers, d'ailleurs, qu'a fondé Pasteur et sur lesquels il avait attiré l'attention des pouvoirs publics dès les années 1860. Hein. La santé publique, la recherche scientifique et l'enseignement, qui sont aujourd'hui au cœur des restrictions budgétaires. Stop ! Là, il y a vraiment urgence. Sinon, la France finira déclassée, ce qu'elle est en train
Annie
de...
Copinel, on peut d'ailleurs rappeler que l'Institut Pasteur est une fondation privée, hein, et non pas publique. Elle est basée sur des dons. Hein. Et ça, on l'oublie aussi. On a l'impression que c'est vraiment un établissement public, Pasteur.
Alors, c'est une fondation privée, reconnue d'intérêt public, qui fonctionne sur une espèce, vraiment de façon extrêmement schématique, sur trois tiers de financement, un tiers qui est effectivement les dons et legs.
Ouais.
Ça, c'est énorme. Le ministère de la Recherche et toutes les institutions de recherche, et l'autre sur le dernier tiers sur des fonds propres.
Et le laboratoire Sanofi Pasteur qui pourrait potentiellement donc sortir un vaccin, ça a un rapport avec l'Institut Pasteur ou pas?
Non, ça fait depuis 1974.
Il y a une confusion énorme là-dessus.
Oui, je sais. Depuis 1974, il n'y a plus de site de production Pasteur. Le nom Pasteur.
Donc l'Institut ne produit pas, ne peut pas produire de vaccin.
C'était produit à Garches avant sur les.
Donc la marque Pasteur a été achetée par un laboratoire qui est Sanofi en l'occurrence.
Oui.
Son nom n'est pas protégé aujourd'hui. Enfin, il appartient à Sanofi, comme vient de le dire Mathieu.
Pas que. Il appartient aussi à l'Institut Pasteur, mais ça, c'est des problèmes
industriels. Mais il a été acheté par Sanofi, en tout cas.
Voilà.
Et ça crée une confusion terrible, d'ailleurs.
Ça crée une confusion.
Parce que les Français ne comprennent pas pourquoi l'Institut Pasteur n'a pas sorti de vaccin.
Ça n'a rien à voir, en fait, parce qu'on était quand même sur les rangs sur la recherche du vaccin. Hein. Et puis, il y a des collaborations extrêmement, extrêmement proches entre industriels, que ce soit Merck, que ce soit Sanofi. Il n'y a pas des cloisons super étanches.
Il n'aurait pas pu le produire lui-même, hein, c'est ça.
Ah non,
Laboratoire Sanofi, c'est ce que je voulais dire.
Jamais. Non, on est vraiment en amont de l'application de la recherche.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous, pour terminer cette discussion autour du mythe Louis Pasteur. idylle. Vanessa Paradis, bien sûr.
France Inter. La terre au carré.
Ce sont eux qui donnent au vin ses maladies, qui mettent en péril notre industrie.
Le vin était malade. Les finances et la fierté de la France étaient en péril. Napoléon III lui-même avait appelé Pasteur à la rescousse.
Il y aurait donc ces toutes petites choses derrière de si grandes maladies.
Permettez-moi de vous faire goûter. Celui-ci n'a pas été traité, prenez garde. Par contre, celui-ci a été chauffé.
Incroyable.
Chauffer les denrées périssables pour en détruire les microbes et permettre ainsi leur conservation. Cette découverte appelée à un grand avenir dans l'industrie agroalimentaire porte encore le nom du savant, la pasteurisation.
Voilà, petit rappel grâce à cette docufiction Pasteur d'Alain Brunard qui était sorti il y a quelques années avec nos invités Annie Copinel et Cédric Grimoud pour le bicentenaire de Pasteur. Encore des messages, Camille ?
Cédric Grimoud, pour savoir comment ça se passait techniquement quand Pasteur procédait à des vaccins, c'est lui qui faisait les piqûres ?
Non, il le faisait sous le contrôle d'un médecin, notamment c'est Joseph Granchet qui était son médecin-chef en quelque sorte, et c'est lui qui inoculait les patients. Donc c'était toujours sous un contrôle médical, que ça se passe d'abord à l'hôpital, puis ensuite dans son laboratoire. Il y avait toujours des médecins avec lui.
Message pardon, de Jean ou de François Régis qui nous écrivent « Pasteur disait, le microbe ou le virus n'est pas tout, c'est le terrain le plus important ». Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Ces articles scientifiques pointent clairement ce fait. Et dans la maladie du charbon qui affectait les moutons pour les inoculer, il avait ensemencé un pré avec du charbon artificiel. Il avait observé que certains mouraient, en particulier quand ils avaient la bouche écorchée par des chardons qui permettaient ainsi au charbon de pénétrer dans l'organisme et de les infecter. Tandis que d'autres s'en sortaient très bien, apparemment sains, et justement même d'autres étaient vaccinés. Parce qu'ils avaient été en contact avec le microbe mais sans qu'il ne les tue. Et ça leur donnait une immunité pour la suite. C'est ça qui lui a fait comprendre justement la possibilité ensuite de vacciner artificiellement les animaux puis les hommes.
Annie Copinel, vous le disiez tout à l'heure, il y avait des antivax aussi à l'époque de Pasteur. Donc ça veut dire qu'il y avait un contexte social, politique aussi, dont on ne peut pas s'affranchir, en tout cas dont Pasteur ne pouvait pas s'affranchir. Et c'est finalement la même chose aujourd'hui avec le Covid. Hein. On peut transposer quasiment les deux époques.
Alors, il n'y a pas qu'avec le Covid, mais alors, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur les antivax. Ça s'est cristallisé vraiment avec la grippe de 2009.
Ouais.
Ils existaient depuis très longtemps.
Qu'est-ce qui explique fondamentalement, selon vous, justement, ces positions de Français qui ne veulent absolument pas se faire vacciner ?
Alors, c'est extrêmement complexe comme problème. Mais là, en ce qui concerne le Covid, je dirais franchement, je pourrais le penser qu'il y a une forte composante politique quand même.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec le gouvernement. C'est comme une espèce de prise de position. D'ailleurs,
c'est-à-dire qu'on n'a pas assez entendu les scientifiques. Ça pourrait être ça aussi, finalement. La parole des scientifiques, qui est mise en doute très souvent aussi aujourd'hui, a été finalement un peu moins entendue que la parole d'Emmanuel Macron, par exemple, qui a été considérée comme...
Non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est une façon de contester quelque chose, une parole officielle. D'ailleurs, on le retrouve plus ou moins avec l'affaire Pouchet et de la génération spontanée dans Pasteur.
C'était la controverse entre Pouchet et Pasteur.
Oui, et ça, c'était excellent, parce que d'ailleurs Cyril le dit, Pouchet en appelle à les libertés antiques de la province contre le despote parisien. Et ça, c'était...
Ouais, Marseille-Paris, hein, quasiment.
Il y a ça aussi qui se retrouve. Mais c'est un problème vraiment complexe.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. C'est l'année du bicentenaire. Ça ne fait que commencer parce que le bicentenaire, c'est réellement décembre prochain, donc date de la naissance de Louis Pasteur. Il y a d'ailleurs un site pasteur2022.fr si vous souhaitez connaître toutes les manifestations qui vont se dérouler tout au long de l'année en France et à l'étranger. Et puis donc, cette biographie qui sort chez Ellipse et dont vous êtes l'auteur, Cédric Grimoud. Et ça s'appelle Pasteur.